Bienvenue. Vous entrez dans la zone. Zone de confort, à ta zone de génie.
Quand tu laisses place à ta créativité, il y a mille manières d'être créatif.
J'écris, je lis. Une porte ouverte sur un monde enchanté. Tu lis quoi, toi?
Ce livre m'a transportée.
Tu lis quoi, toi?
Quand elle écrit, c'est beau, quoi.
J'ai des piles à lire partout. Des petits tas dans ma chambre, des petits tas dans ma bibliothèque, c'est...
Lire, c'est vivre en pleine lumière.
Tu lis quoi, toi?
Je contemple, j'écris, je lis.
Et tu vois, quand tu oublies que t'es en train de lire des mots, ben voilà, c'est ça que je cherche quand j'ouvre un livre, finalement. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Book Club de la Zone, le book club pour les créatifs qui aiment lire et raconter des histoires. Ça fait des mois que je fantasme l'idée de partir. Partir loin, partir longtemps. Est-ce qu'on n'en a pas un peu tout rêvé? Tout quitter du jour au lendemain? Envoyer valser nos responsabilités, démissionner d'un emploi plutôt pas mal, confier les enfants aux grands-parents sans culpabiliser, flamber nos économies pour un aller simple vers cet endroit qui nous attire inlassablement. Ne pas penser à demain, ne pas regarder en arrière, sentir l'excitation de quelque chose de nouveau, sentir la peur de quelque chose d'inconnu, partir pour s'émerveiller, pour découvrir l'autre, pour se rencontrer ou même se sauver. Au cours de mes dernières lectures, j'ai croisé la route de ces femmes qui sont parties, qui ont répondu à cet appel d'envoyer balader tout et tout le monde, pour se choisir. Prendre cette décision parfois très spontanée et irréfléchie, parfois difficile et terrorisante, de partir, parce que c'était nécessaire d'enfin se prendre la main, de s'emmener ailleurs, pour se comprendre, pour respirer, pour s'aimer. Tout de suite, trois récits de femmes qui partent. Laissez-moi d'abord vous raconter l'histoire de Clémence et de sa grand-mère, avec la bande dessinée Ne m'oublie pas. La grand-mère de Clémence vit depuis peu en maison de retraite et souffre de la maladie d'Alzheimer. Face à son désarroi et sa profonde tristesse, Clémence décide un jour, sur un coup de tête, d'emmener sa grand-mère sur la route, afin de lui faire voir une dernière fois sa maison d'enfance, à plus de 600 kilomètres de là où elles vivent. Sur la route, Clémence et sa mamie vont renouer avec le passé, mais aussi avec le présent. Elles revisitent ensemble ou dans des flashbacks de leurs souvenirs, l'enfance de Clémence ou la jeunesse de sa grand-mère. On se rend compte au fil des pages que Clémence, sa mère, et sa mère avant elle, appartiennent à cette génération de femmes qui ont tué les choses, et les sentiments, par pudeur, par gêne. Et ça m'a profondément marquée, parce que ça m'a renvoyée à ma propre famille, cette lignée de femmes qui n'a pas su tout dire, qui a un peu peur d'être vulnérable, qui aime maladroitement, mais qui aime malgré tout. D'ailleurs, la vulnérabilité est pour moi un des thèmes centraux de cette bande dessinée. Il y a ce moment où les deux compagnes de voyage se mettent littéralement à nu lorsque Clémence donne le bain à sa grand-mère et que celle-ci lui somme de la rejoindre. Elles se confient toutes deux sans mots et s'abandonnent à une confiance et un amour inconditionnel l'une envers l'autre. Le moment pourrait être très gênant et même bizarre en fait, mais il est particulièrement cru, vrai et touchant. Même si Clémence fait ce voyage pour sa grand-mère, pour lui faire voir une dernière fois la maison où elle a grandi, ce voyage est aussi et surtout pour elle. En ayant la maladie d'Alzheimer, sa mamie se comporte et s'émerveille comme une enfant. Et donc elle apprend à Clémence à savourer la douceur de ce que nous offre le présent, la beauté des petites joies, des petites choses. Malgré la fatalité de la maladie et le désarroi de Clémence, malgré les interdits et les situations un peu dangereuses dans lesquelles elles se mettent pour accomplir ce voyage, il y a beaucoup de douceur, de chaleur et de tendresse dans cette bande dessinée. Et les tons chauds et couleurs pastel nous le rappellent à chaque page. Il est rare que je trouve les fins d'histoires, de romans, de BD réussies. Mais celle-ci, elle est parfaite. J'ai pleuré comme une madeleine, C'est beau, c'est doux, c'est poétique. Et c'est parfait. Parfois, il faut partir pour se souvenir. Il faut partir pour décortiquer le passé, afin de comprendre l'autre, pardonner et penser les plaies du présent. Il faut partir pour avancer vers un avenir qui nous semblera un peu moins cabossé et brumeux, un peu plus lumineux, où on apprendra à s'ouvrir et à se dire « je t'aime ». Parce qu'en vrai, aimer, je pense qu'il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça qui reste, après nous. Pour cette seconde histoire, j'aimerais faire un avertissement car on va aborder les violences conjugales. Si c'est un sujet sensible pour vous, je vous conseille de l'écouter dans de bonnes dispositions, ou bien de passer à l'histoire suivante. Reportez-vous aux notes de l'épisode. Dans son roman La deuxième femme, Louise May nous raconte l'histoire de Sandrine. Sandrine qui ne s'aime pas. Elle haït son corps trop mou, son cerveau trop lent et son existence de rien du tout. Mais ça, c'était avant sa rencontre avec lui. Lui, le salut. Celui qui la regarde avec désir et l'enveloppe d'attention. Lui qui a perdu sa première femme, la mère de son fils muet de douleur. Car un jour, cette première femme a disparu. On a ratissé les bois, placardé des affiches, mené d'importantes recherches, mais rien. Jusqu'à ce jour où cette première femme se présente sur le pas de la porte. Et à partir de là, le monde de Sandrine s'effrite, miette après miette. L'amour se transforme en possession, en humiliation, en mépris, en haine et en coup. À moins que cette noirceur, il l'avait en lui depuis toujours. Et alors que la petite voix de Sandrine lui crie de partir, alors qu'elle assemble peu à peu les pièces du puzzle et tente de résoudre le mystère derrière la réapparition soudaine de la première femme, Sandrine doute. Elle se ment à elle-même, cherche toutes les raisons de rester. Elle veut y croire et sans cesse lui pardonner parce que lui, il l'aime, il est son tout, sa vie entière. Mais elle sait au fond qu'elle doit partir, qu'elle doit fuir et se sauver. Alors je sais que c'est un sujet très délicat, très sensible et très douloureux, mais je l'ai vraiment, vraiment aimé. Ça a été un coup de cœur il y a quelques années quand j'en ai entendu parler, je ne sais plus dans quel podcast. C'était la première fois que j'étais confrontée à une fiction qui racontait ce genre de violence. J'en étais un peu familière grâce à des podcasts et des essais sur la question. Mais le lire en roman, c'est vraiment autre chose. C'est une autre expérience. Et l'écrire doit être un exercice assez complexe car il faut en faire une lecture haletante qui mêle une intrigue prenante et un suspense propre au thriller tout en gardant l'empathie nécessaire pour qu'on ne relègue pas cette lecture au rang de simple thriller justement qui pourrait simplifier ou banaliser le sujet grave des violences faites aux femmes. Et je pense que Louise May a réussi ce défi avec brio. Parce que 2 ans à peu près après l'avoir lu, je me souviens de tout, et surtout du poids de l'emprise que jusqu'alors je ne comprenais pas. Je me souviens de m'être abandonnée à tout ce que Sandrine souffrait, à sa peur, sa résilience, sa résignation aussi parce qu'elle était persuadée de ne juste pas avoir le choix. Louise May choisit d'écrire au discours indirect libre, donc on est immergé dans les pensées de son personnage. On en suit le fil comme une ombre. Ses mots sont autant de sanglots coincés dans la gorge. Et au début, c'est lent. Sandrine, qui ne s'aime pas, m'agace. Sans comprendre qu'elle m'agace, parce que son dégoût pour elle-même me renvoie à mon propre manque de douceur à l'égard de mon reflet dans le miroir. Comme un réflexe au fil des pages, je n'arrêtais pas de lui balancer tous les relents condescendants d'une société patriarcale. Mais pourquoi tu te laisses faire? Mais barre-toi, bon sang, cours! Mais la raison pour laquelle elle ne part pas, c'est exactement ce que Louise May cherche à raconter. Et quoi de mieux que la fiction pour essayer de nous faire comprendre ce que la vraie vie ne peut pas nous enseigner tant qu'on ne l'a pas vécu soi-même. La deuxième femme raconte l'emprise et ses barreaux qui semblent indestructibles et impénétrables, d'abord parce qu'on ne les voit pas. Comment échapper à quelque chose qui n'existe pas? Et comment confronter la brutalité lorsqu'enfin on les voit? Comment partir? Alors, je vais finir avec un récit un peu plus lumineux. Le dernier livre dont je voudrais vous parler, c'est une histoire qui est chère à mon cœur. Ça a d'abord été un film cher à mon cœur, avant que je me dise que je devrais le lire quand même. Il s'agit de Mange, Prie, M, d'Elizabeth Gilbert. J'ai appris qu'on disait Gilbert et pas Gilbert il y a peu. Alors oui, je sais, je vous ai rebattu les oreilles plein de fois avec cette autrice parce qu'elle a une vision de la créativité que je partage et que j'essaie de cultiver le plus possible. Mais est-ce que vous saviez que Julia Roberts, qui mange des pâtes en Italie, prie dans un ashram en Inde et fait du vélo sur une île paradisiaque à Bali, et ben en fait, c'est la vie d'Elizabeth Gilbert. En fait, c'est une année de sa vie, pour être précise. L'année où elle a décidé qu'il fallait qu'elle quitte tout pour se sauver, alors que sa vie s'écroulait sous ses yeux et qu'elle était rongée par la dépression. Tout commence au début des années 2000 sur un carrelage de salle de bain. Elizabeth ne se rappelle plus la dernière fois qu'elle s'est adressée à Dieu, à l'univers, pour lui demander ce qu'elle devait faire. Ça faisait des mois qu'elle pleurait chaque nuit, car elle n'était plus heureuse dans son mariage, mais qu'elle n'osait pas y mettre fin, tiraillée entre l'aimer lui ou s'aimer elle. Elle écrit d'ailleurs une phrase qui décrit très bien ce par quoi je suis passée moi aussi. La seule idée plus inconcevable encore que de le quitter était de rester. La seule chose plus impossible encore que de rester, c'était partir. Mais elle se sépare tout de même. Et à 31 ans, complètement perdue, avec un divorce qui se fait dans le déchirement et une idylle romantique après cela qui finit mal, Elizabeth décide de partir. Parce que tout l'étouffe à New York, que sa dépression est en train de la submerger et qu'elle sent qu'elle ne pourra pas remonter à la surface sans cela. Ce sera d'abord l'Italie pour manger, puis l'Inde pour prier, et enfin l'Indonésie, et plus précisément Bali, pour aimer. Je suis bien consciente du privilège que c'est de pouvoir faire cela, et Elizabeth aussi. Et donc, en attendant que l'opportunité se présente pour moi aussi, ou alors en attendant le courage de me donner cette opportunité, j'ai vécu son voyage par procuration. Je me suis délectée de mon fantasme qui se matérialisait sous mes yeux page après page, 20 ans auparavant, par une créative que j'admire. Au cours de son voyage, on comprend que c'est d'abord un voyage intérieur qu'Elizabeth fait. Je sais, je vous vois déjà lever les yeux au ciel. Ça semble hyper bateau, hyper cliché, une phrase toute faite de développement personnel. Mais je vous assure que c'est vrai. En Italie, elle est encore en profonde dépression. Et donc, elle commence par des choses très concrètes. Se faire plaisir, faire des petits choix, manger ce qu'elle veut, se balader où elle veut, apprendre ce qu'elle veut, rencontrer qui elle veut et manger encore. L'important était de redécouvrir ce qu'elle aimait et ce qu'elle n'aimait pas, de façon très concrète et terre à terre, après s'être enfermée dans le conformisme d'un mariage qui ne lui plaisait pas. Puis en Inde, à travers la prière, à travers sa rencontre avec le divin, elle se pardonne et elle lâche prise vis-à-vis des histoires d'amour passées qui ne sont plus vues comme des échecs mais comme des histoires, des expériences qui ne sont plus chargées de culpabilité mais de nostalgie bienveillante. Et puis à Bali, elle essaie de retrouver un équilibre tant bien que mal, de se tenir la main, de s'aimer avant tout, et d'y aller un jour à la fois. Au cours de ce long voyage, elle écrit beaucoup, et elle se pose les mêmes questions que je me pose à l'aube de mes 30 ans après une rupture compliquée. Qui suis-je? Et comment m'aimer? Qui est Dieu? Et comment le rencontrer? Qu'est-ce qu'aimer? Et comment le pratiquer? Elle parle de son rapport à la dépression, à la solitude. Elle parle des personnes qu'elle a croisées, lors de ce long voyage. Elle parle d'une quête vers quelque chose de plus grand qu'elle. mais aussi d'une quête d'elle-même. Un voyage pour ravistoler un cœur brisé, mais dont la fêlure était nécessaire pour laisser la lumière y pénétrer. Et ça, ce n'est pas de moi. C'est d'un homme qu'elle a rencontré lors de son séjour en Inde et qui a eu mille et une vies. C'est un très beau récit, parsemé d'anecdotes sur l'histoire des pays dans lesquels elle séjourne. Et malgré les sujets graves, comme la dépression, la rupture, la solitude, le fait de se perdre complètement, de ne plus savoir qui on est, en fait de vivre une véritable crise existentielle, et malgré quelques longueurs aussi par moments, eh bien Elisabeth nous raconte tout cela avec légèreté et avec l'humour et l'authenticité de son écriture. Et à la fin, j'ai pensé que je devrais moi aussi avoir mon mange-prix M à moi, qu'on devrait tout avoir le droit d'avoir notre mange-prix M à nous. Pas besoin de partir loin et d'être complètement dépaysé. On pourrait commencer par quelques jours, pas loin de chez nous. Quelques jours pour savourer des plaisirs concrets, comme la nourriture ou le fait de danser ou de dessiner, ou de faire une sieste. Quelques jours pour nous recueillir et converser avec Dieu et connecter avec la nature. Et quelques jours pour prendre soin de nous, pour nous aimer. Et qui sait là où un tel voyage pourrait nous mener. Voilà, c'est la fin de cet épisode du Book Club, mais également la fin de cette première saison. Une année de lecture partagée avec vous. Ça a fait beaucoup et c'est passé très vite. Il est temps pour moi de remettre le nez dans mes livres pour faire le plein ce printemps et tout l'été, avant de revenir à l'automne ou à l'hiver avec des changements qui j'espère vous plairont. Si vous avez déjà lu ces livres ou que je vous ai donné envie de les lire, rejoignez la conversation sur Instagram à la Zone Podcast. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter, mon journal de bord, pour notamment savoir plus sur moi et mes projets, ce que j'apprends chaque jour sur la créativité, et avoir d'autres recommandations culturelles inédites. Le lien est dans les notes de l'épisode. Et vous saurez tout avant tout le monde quand je reprendrai le Book Club et la manière dont il va évoluer. Partagez le podcast autour de vous et faites-moi part de vos plus belles lectures. Je suis toujours à la recherche de nouveaux mondes à découvrir. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.